Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous accueillir aujourd'hui par cette belle journée. Je vais poser la question traditionnelle parmi vous. Qui est-ce qui est venu, qui vient ici pour la première fois en conférence des CIL? D'accord. Toujours beaucoup de nouveaux. Donc pour ces gens-là, je vais juste donner un petit rappel sur le sens de l'association. Nous sommes là pour aider les gens qui sont dans le deuil et qui ont du mal à s'en sortir, à aborder une réponse d'un point de vue spirituel, avec la découverte ou la connaissance ou la communication avec l'au-delà. Pour ce faire, nous avons aussi une bibliothèque pour aider les gens qui ont besoin de découvrir des auteurs qui ont travaillé sur les sujets, des scientifiques, des médecins et quelques mystiques. Si vous souhaitez être informé des activités de l'association, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, vous remplissez un petit papier à l'entrée et vous recevrez tous les courriers par mail, si possible, sur l'activité de l'association qui n'est pas très très importante, c'est une conférence par mois. Alors tout de suite, je vais préciser deux choses. La première, c'est que toutes les informations qui concernent l'association passent automatiquement par notre site internet. Je vous invite à bien savoir que vous êtes sur notre site lorsque vous regardez les informations relatives à notre activité, parce que il y a des erreurs qui se glissent chez nos amis et partenaires. Donc privilégiez plutôt notre site internet pour avoir les vraies informations. On a également une page Facebook, quelques-uns parmi vous le savent. Et puis voici pour l'activité de l'association. Alors, une information très importante, vous êtes ici au Polygone, c'est la dernière fois que nous intervenons au Polygone. À partir du 13 décembre, nous interviendrons à l'AS Hôtel, qui est situé 61 rue du Ressort. C'est la rue qui est parallèle à l'église de la République, qui est entre Montferrand et Clermont, qui longe l'hôpital d'Estaing, qui est en fond de l'hôpital d'Estaing. Donc, prenez bien garde, on n'aura plus de conférence ici. Faites-le savoir si vous savez quelqu'un qui vient régulièrement à la conférence. Je vais vous demander aussi de faire comme moi, de couper les téléphones, parce que c'est toujours compliqué pour les intervenants, et notamment en médiumnité, d'avoir des appels téléphoniques. Voilà qui est fait. Donc, il y a toujours un qui sonne, mais on va essayer de limiter. Une précision aussi concernant l'activité, j'envoie régulièrement des mails, enfin, une fois par mois au moins, et j'ai pas mal de retours, alors si vous avez changé d'adresse email, n'oubliez pas de nous le faire savoir, parce que on ne peut pas nous joindre autrement. Aujourd'hui, nous recevons Victor Magna et Martine Minutella, que nous remercions. Ils viennent à Clermont pour la deuxième fois. À noter que la première fois, ils étaient venus bénévolement et spontanément. Ils viennent toujours bénévolement, d'ailleurs, mais spontanément pour remplacer une défection. Donc, à ceux qui font leur donne des remerciements. Et comme ils avaient été beaucoup appréciés par le bureau et par les gens, nous les avons fait volontiers revenir. Victor nous parlera de la réconciliation d'âme et les promesses oubliées de l'âme avant de s'incarner. Et nous aurons une pause d'une vingtaine de minutes à peu près entre la conférence et la partie communication médiumnique en public qui sera donc faite par Victor ainsi que par Martine Minutella qui vous donnera des petits papiers pour poser une question, je crois, et en écriture automatique, elle donnera des réponses. Alors, je sais que Victor travaille sur photo, mais pas seulement, donc même si vous n'avez pas de photo, un message peut vous être adressé. Mais si vous n'avez pas de message, il importe à parier que vu le nombre qu'il y a dans cette salle, tout le monde n'aura pas de message. Pensez toujours que c'est pas nous qui décidons. Ni Victor, ni moi, ni l'organisation, c'est bien au-delà qui décide, et que les messages sont toujours donnés à propos et concernent également les gens qui sont dans la salle, même s'ils ne s'adressent pas directement à eux. Et donc, à ce titre, Ben, je demande toujours de respecter le silence, du mieux qu'on peut, parce que c'est toujours plus intéressant d'écouter le message que son voisin. Tout le monde, je le sais et le vit. Je précise aussi que la médiumnité peut surprendre quelques personnes, ou quelques personnes peuvent avoir la nécessité de quitter la salle. On demande dans ce cas-là, si c'est prévu, de rester plutôt dans le fond de la salle pour être le plus vite, c'est possible, parce que généralement, les mouvements de foule dans la pièce perturbent la communication. Je vais vous signaler la prochaine conférence que nous allons donner, qui est le 13 décembre. Alors, deuxième information importante, non seulement ce sera à l'AS Hôtel, mais ce sera le samedi soir, le samedi 13 décembre, à 19h30. Oui, merci. Alors, je répète, samedi 13 décembre, 19h30, à l'AS Hôtel. Après, on reprendra notre rythme de dimanche après-midi. Et nous recevrons ce soir-là Bertrand Retailleau et Bernadette Desbrouilles de l'association Un autre lien de Carsac-Cayac, près de Sarlat. Et le sujet de la conférence sera tout simplement des questions-réponses sur qu'est-ce que la médiumnité. Et ensuite, on aura une séance de communication publique avec Bertrand Retailleau et Bernadette Desbrouilles. Je vais juste aussi terminer avec une information qui concerne quelqu'un que nous apprécions beaucoup, qui s'appelle Sonia Barcala. Pour certains d'entre vous, vous la connaissez, elle était venue en conférence à Saint-Bosire, organisée par le CIGN. Elle avait parlé des NDE, ce fameux passage qui est appelé ENI en français. Ce passage, c'est une aiguille que vivent certaines personnes dans les comas, dans un coma profond, et qui reviennent à la vie terrestre avec des informations stupéfiantes. Et cette dame, Sonia Barcala, a décidé de mettre en place une web télévision, c'est-à-dire une télévision avec abonnement sur Internet. On aura l'occasion d'en reparler. Je fais très rarement de publicité, même jamais, mais je crois que là, c'est vraiment pour une cause, une bonne cause. Voilà. À signaler aussi que le 12 décembre, l'association de Vichy, Arc-en-Ciel, reçoit ERAD pour une conférence également, questions-réponses, concernant l'au-delà. Le 12 décembre également, l'association Aurore de Bruyoul reçoit Mireille Drapeau qui parlera du Père Pio. Voilà. Si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à le demander. Je pense que j'ai pas grand chose à vous rajouter. Et je vais laisser la parole maintenant à Chantal et vous souhaiter une bonne conférence.
Bonjour à tous. Alors, comme il est de coutume, pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne savent pas, j'ai l'habitude de faire la lecture d'un petit texte, d'un poème ou d'une pensée pour faire la transition entre ce que dit à vie, qui est plutôt matériel, et puis la conférence qui sera plus spirituelle, on va dire. Alors aujourd'hui, c'est un texte que nous avons reçu de nos guides. Alors je vous lis. Voilà ce qu'ils disent. Nous sommes les guides, hein, on parle des guides. Nous sommes les amis, nous sommes les frères, nous sommes les murmures, nous sommes les larmes et les rires. Nous sommes ceux qui sont dans la lumière alors que vous pensez que nous sommes tapis dans l'ombre. Nous sommes guides et par notre amour inconditionnel, par notre volonté d'être dans l'unité de chacun et de tous, nous sommes à l'écoute de vos pensées et de vos âmes. Regardez, cherchez, car les signes que vous recevez sont autant de rayons lumineux que de larmes que vous versez. Nous sommes ceux qui vous bercent dans la solitude de vos pensées et pourtant vous nous ignorez. Nous sommes le vent et la brise qui agitent les vieilles feuilles de l'arbre, et nous sommes la pluie fine qui alimente vos rivières, et pourtant, vous nous ignorez. Vous cherchez les signes, et ces signes sont plus présents que votre simple présence. Vous cherchez une réponse en joignant vos mains et nous sommes la force qui vous pousse à les faire se rejoindre. Nous sommes la réponse et pourtant, vous n'écoutez point car le cri de détresse est toujours plus fort que le silence de l'amour. Ceux qui font passer de vie à trépas vous envoient moult signes et moult petits messages, mais votre peur de les voir vous les dissimule. Si celui qui vous a quitté n'est point reçu en votre cœur par sa seule présence divine, il ne peut à vos yeux se montrer, car votre peine si grande ne saurait reconnaître le miracle qui se joue. Seul celui qui voit avec le cœur tourné vers la lumière reçoit en son sein, en son temple, le message de ses pères. Nous, guides de lumière, nous, vos compagnons de voyage, sommes ici dans le grand voyage de la vie et de la mort. Nous avons pour mission de vous mener à votre destination. Celle-ci n'est point de contenter votre ego ou de vous donner plus de flatterie que de réprimande. Nous sommes ici avec les âmes incarnées et auprès de ceux de votre famille. Nous sommes ceux qui, sans attendre reconnaissance ou dévotion, apporteront au creux de nos mains le sel et l'eau. Nous aimons simplement et vous apprenez ainsi à aimer celui qui vous montre la voie sans vous donner une tape violente sur l'épaule. Vous serez guide un jour aussi et pour cela vous devez comprendre, apprendre, donner, recevoir dans le plus simple sacrement de votre être. Nous sommes avec vos proches et nous portons vos messages. Ils nous donnent les leurs et par notre amour sans faille, nous vous les restituons. Recevez le message, soyez attentifs, car beaucoup d'entre eux vous guideront sur les voies éclairées de la connaissance. Portez votre bannière de guide terrestre avec honneur et fierté. Donnez à celui qui attend le mot juste et le sourire. Vous que nous chérissons plus que jamais, depuis hier et pour toujours, nous vous apporterons à chacun d'entre vous la félicité et la sérénité. Regardez, ouvrez vos mains et cœurs, ne jugez point l'ignorant, mais donnez-lui le livre dont il a besoin. Riez de vos erreurs, car lorsque vous retrouverez votre demeure, c'est une grande assemblée de frères et de sœurs qui vous salueront et qui riront à vos côtés. Dites à vos amis que derrière le grand rideau de la mort se cache un décor merveilleux qui attend chacun de vous, mais que votre mémoire a oublié. Dites aux âmes en peine qui ne sont pas seules et que des âmes lumineuses sont à leur côté. Dites-leur que le futur sera un mirage si leurs yeux n'acceptent pas la lumière. Dites-leur enfin que rien ne s'achève, que tout est parfait et que le retour à la maison est celui que tous ici-bas attendent. Non, l'humain ignorant, mais bien l'âme éternelle qui l'habite. Voilà. C'était un peu long, mais je pense que ce message peut vous pénétrer au plus profond de vous, parce que quand on parle de nos guides, peu de gens savent que nous avons des guides. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, nous mettrons ce texte sur Internet. Parce qu'une première lecture, on l'entend, mais quand on fait une relecture, je vous assure que ça touche vraiment le cœur et l'âme. Voilà, je laisse la parole à Victor.
mesdames et messieurs, bonjour. M'entendez-vous au fond de la salle? Ai-je besoin de parler plus fort ou pas? Est-ce que je vous arrache les oreilles au premier rang? Non, tout va bien. Le seul bruit que vous entendrez qui vous dérangera au fond, c'est moi parcourant de long en large l'estrade. Et peut-être que si ça me gêne moi-même, je me mettrai alors à ce niveau-là, mais je crains qu'au fond, vous me voyez plus. Vous me voyez toujours au fond. Merci à l'association de nous inviter pour la deuxième fois, volontairement, puisque cette fois-ci, nous ne remplaçons personne. Je vous présente Martine Munitella, qui est médium psychographe, la psychographie, et le fait d'obtenir des messages par écriture. On appelle ça très souvent l'écriture automatique. La psychographie est un terme spirit, et de fait, nous sommes, Martine et moi, d'éducation spirit, si nous pouvons dire ainsi cela, et le message que vous avez entendu est assez typique, à vrai dire, des messages obtenus à l'occasion des séances spirit, durant lesquelles des guides ou des accompagnants spirituels se communiquent. Hein. Il y a des échos à beaucoup d'autres messages qui ont été transmis de par le monde, et c'est ce qui probablement donne un accent de vérité à ce qui a été cité, récité. Pour ce qui me concerne, aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet que j'ai intitulé « La réconciliation d'âme » ou « Comment retrouver les promesses oubliées de l'âme ». Mais auparavant, je vais vous expliquer comment va se dérouler notre après-midi. Nous sommes ici jusqu'à environ 19h. Et parce que vous êtes très nombreux, nous allons faciliter l'association Martine et moi, la deuxième partie de la séance médiumnique, puisque à vous deux, vous êtes ici surtout pour cela. Je vais donc essayer d'écourter la première partie, et je ne vais pas vous citer les textes que je cite habituellement, il y en a trois. Je vais essayer de vous les restituer de mémoire, aussi bien que possible. Nous gagnerons ainsi facilement 15 minutes. Durant la pause, voilà comment les choses peuvent se passer, si vous êtes d'accord. Durant la pause, vous aurez l'opportunité de remplir des fiches. Des fiches préparées par Martine. Ce sont des fiches sur lesquelles Martine va essayer, avec vos compagnons de l'au-delà, d'obtenir des informations sur vous et sur les questions que vous aurez posées. Sur cette fiche, vous pourrez annoter votre prénom, éventuellement le prénom du défunt, si vous souhaitez obtenir des nouvelles de ce défunt-là ou obtenir des précisions de sa part, ou bien, si vous n'avez pas l'envie, le désir, la nécessité d'obtenir des nouvelles d'un défunt, mais plutôt d'obtenir une précision, une orientation, un conseil concernant une problématique personnelle, la vôtre ou celle d'un proche, eh bien, on pourra tenter d'obtenir la réponse de la part de votre accompagnant spirituel, celui qu'on nomme habituellement le guide ou bien l'ange gardien. Donc, vous pouvez le faire une fiche par personne seulement, et sachez-le, aujourd'hui, nous avons limité les fiches à 30. Il y a 30 fiches, alors que vous êtes à peu près 120, peut-être, quelque chose dans le genre. Donc, vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour récupérer ces fiches. Et nous avons ici d'ailleurs, regardez, des sortes de sacs ou des couteaux qui vous permettront de vous entretuer. Hein. Ne vous précipitez pas, parce que si vous n'obtenez pas de message au travers de l'écriture, peut-être en obtiendrez-vous au travers de moi, puisque je vais essayer de travailler à partir de photos, mais pas seulement. Les personnes qui me connaissent un petit peu savent que je prends à peu près 20 ou 30 minutes à vous dire ce que je vois autour de vous et au-dessus de vous. Ça prend à peu près 20 ou 30 minutes, histoire de me chauffer. Et ensuite, je passerai aux photos, parce qu'il faut passer aux photos. Mais de temps en temps, si une vision m'apparaît autour de vous, je délaisserai la photo pour travailler sur ça. Bien. Durant la pause, toujours, nous vous proposons ceci. À la fin de la séance, pour les personnes qui resteront, mais d'autres naturellement pourront partir, personne ne les oblige, nous aurons l'occasion de prier tous ensemble à voix haute pour nos proches, pour nos amis, nos parents, ou bien pour nous-mêmes. Il me semble que la spiritualité ne consiste pas simplement à obtenir des nouvelles des défunts, Et ça consiste aussi à nous unir dans un sentiment de fraternité d'amour. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est qu'ensemble, à la fin de la séance, nous puissions unir nos volontés, unir nos bons sentiments, et transmettre à la divinité, aux bons esprits, aux figures religieuses, si vous êtes religieuses, nos meilleures intentions. Et pour cela, nous citerons, nous réciterons à voix haute les prénoms que vous noterez sur ces feuilles, si vous le souhaitez. C'est une action volontaire de votre part. Si vous avez besoin vous-même de prière, d'une force psychique, d'un soutien moral, peut-être peut-on estimer que vous recevrez cela de la part de nos amis d'au-delà, de la divinité, et vous pourrez mettre votre prénom. Si autour de vous, vos proches ont besoin de faire, ou des inconnus, bien, n'hésitez pas à noter ces prénoms-là, ces noms-là. Si les prénoms concernent une famille entière, mettez plutôt le nom de la famille, parce que vous êtes très nombreux et ça risque d'être un peu fastidieux de réciter tous les prénoms. Par conséquent, si vous souhaitez prier pour une famille entière, mettez plutôt le nom de la famille. Et au moment où le nom sera cité, eh bien, vous formulerez vous-même en votre intérieur les prénoms. Par ailleurs, la fiche s'intéresse aux incarnés. Les incarnés, ce sont les personnes vivantes, ce sont vous, c'est nous. Et puis, il y a des fiches pour les personnes désincarnées. Les personnes désincarnées, ce sont traditionnellement les défunts, mais pas seulement. C'est peut-être des entités. Et par entités, j'entends, par exemple, des concepts tels que la paix dans le monde, ou les animaux, ou les plantes. Si par conséquent, vous êtes sensible à ces entités-là, eh bien, je vous en prie, n'hésitez pas à émettre ces prières-là, puisque nous savons très bien que le monde tel qu'il est en a besoin. Si autour de vous, vous avez connaissance de gens qui ont besoin de prières, malgré le fait qu'ils soient de l'autre côté, je ne crois pas que vous ignorez que de l'autre côté, ce n'est pas tout à fait le paradis, pas pour tout le monde en tout cas. Il y a des gens qui peuvent souffrir d'une certaine façon, peuvent éprouver des regrets, des remords. Donc, si vous avez connaissance de ces gens-là, n'hésitez pas à mettre leur prénom ou bien les noms de famille. Et puis, à la fin, nous prierons tous ensemble. Et j'ai besoin de deux volontaires, mais vous viendrez me dire qui vous êtes pendant la pause. J'ai besoin d'un volontaire parmi le public et d'un volontaire parmi les membres de l'association. Vous viendrez à la fin de la séance, à côté de nous, et vous citerez les prénoms avec nous. Vous nous allégerez notre travail, mais en plus, vous participerez à une action qui me semble utile et nécessaire, d'accord? Donc vous réfléchissez, ne vous laissez pas perturber pendant le sujet de présentation, ne pensez pas qu'à cela, essayez d'être attentif à mon sujet. Et puis ensuite, bien pendant la pause, vous viendrez me dire qui vous êtes. D'accord? Avez-vous des questions par rapport à ce qui a été dit? Bien. Une autre précision qui a son importance. Le sujet de la réconciliation d'âme concerne une sorte de soin spirituel. C'est quelque chose que j'essaie de développer depuis 3 ans environ à la suite de réflexions. Et ce soin que je vais prodiguer en salle dans à peu près 40 minutes ou 45 minutes peut faire peur au public. Dans le public, des gens imaginent que je vais les hypnotiser ou bien que je vais les changer. Ce que je vais faire, ce n'est pas hypnotiser, ce n'est pas vous hypnotiser, mais c'est simplement vous placer dans un doux état modifié de conscience. Je vous expliquerai pourquoi. Et il n'y a absolument aucun danger à vivre cela. Mais pour autant, si parmi vous, des personnes ne désirent pas que je les place dans cet état-là, eh bien au moment où j'appliquerai la méthode, vous pourrez sortir. Parfois, cela arrive, et je ne crois pas qu'il y ait à les juger. Je pense que les personnes qui agissent comme ça, ils ont une peur qui peut être résolue, hein, qui peut être dépassée. Et peut-être que cela se fera plus tard. Pour enfin, pour la séance médiumnique, vous apporterez des photos pendant la pause. Mais j'ai besoin que vous me citiez votre prénom. Pas les prénoms des défunts, mais votre prénom à vous. Parce que ce n'est pas simplement une photo que vous allez me donner. Je trouve parfaitement injuste de brandir cette photo et de demander à qui elle est. Ce que je veux savoir, c'est à qui je m'adresse. Parce que vous êtes des individus, vous avez une identité, et je veux que vous sachiez que c'est à vous que je parle, d'accord ? Et non pas à quelqu'un qui est dans le public. Ma médiumnité est une médiumnité, comme beaucoup d'autres, qui consiste à vous dire ce qui me traverse. Ça a peut-être été caractéristique que, pendant les 20-30 premières minutes, je dirais ce qu'il y a au-dessus de vous et en vous. Surtout, n'ayez pas peur. Ce n'est pas vous que je regarde. Vous aurez peut-être l'impression que je vous regarde, mais ce que je regarde, c'est autour de vous. Dans les premiers rangs, c'est au niveau de la poitrine, au niveau des jambes et des pieds. Mais ce n'est pas vous comme individu. Mon œil ou ma vision, comme vous le voulez, regarde, pour ainsi dire, mais pour prendre un raccourci, sur un autre plan. D'accord ? Donc ne soyez pas gênés, ce n'est pas vous que je regarde. Martine, elle, obtiendra les messages aux fiches, et de temps en temps, je lui donnerai le micro, si elle est gentille. Environ trois fois ou quatre fois. Hein, d'accord ? Je vais donc vous présenter le sujet de la réconciliation dans un mode court, pour que nous ayons du temps pour la deuxième partie. J'estime pouvoir vous présenter le sujet en 40 minutes. Et si quelqu'un pouvait chronométrer, ça me rendrait service. J'aimerais beaucoup que dans 40 minutes, une personne qui se dévouera, ou à gauche, voulez-vous dévouer ? Qui veut se dévouer ? Dans 40 minutes, j'aimerais que vous fassiez un signe. Comme ça, on pourra passer à la pratique. D'accord ? Bien. Je ne suis pas un spiritualiste professionnel, je ne veux pas, pour le moment. Peut-être qu'un jour, j'y serai obligé d'une certaine façon. Vous savez, la plupart des médiums que vous rencontrez sont des gens sur qui la médiumnité est tombée soudain, et ils se retrouvent avec de telles demandes qu'ils n'envisagent qu'une seule chose, finalement, c'est d'en faire leur profession. Moi, ce n'est pas le cas. Parce que avant d'être médium et spiritualiste, je suis un individu, je suis Victor. Et j'ai conscience que dans la vie, j'ai aussi besoin d'apprendre de Victor, de ses activités, de ses erreurs et de ses réussites. Mon activité de spiritualiste et de médium vient non pas en deuxième position, mais parallèlement à la première. J'essaye d'avoir un métier, je suis informaticien, et mes activités spiritualistes sont bénévoles. Alors parmi vous, des personnes ne vont m'accorder dès lors aucun crédit, parce que je suis bénévole, considérant que les médiums qui sont des professionnels sont mieux que les autres, ou ont en quelque sorte une légitimité, libre à vous de croire. Chacun est libre de croire ce qu'il veut sur ce sujet-là. Pour le moment, en tout cas, je revendique d'être un médium bénévole. J'accepte les dons, mais ils ne sont pas obligatoires. Et dans le cadre de mes activités, depuis à peu près 3 ans, depuis que mon activité de médium et de spiritualiste a été rendue publique, j'exerce dans une petite boutique au nord de Lyon, à Neuville-sur-Saône, où je reçois des personnes comme vous. Et parmi ces personnes, il y en a qui, arrivées à 40 ou 50 ans, me disent qu'elles sont arrivées en quelque sorte à un carrefour de leur existence. Ce sont des personnes qui souvent ont exercé un métier, souvent ont eu des enfants, mais les enfants sont partis. Ce sont des personnes qui peuvent connaître le chômage, une situation professionnelle parfois difficile. Mais ce sont, je crois, des personnes dont la caractéristique principale est celle-ci, c'est qu'elles ont conscience qu'elles peuvent mieux faire et qu'elles peuvent mieux donner d'elles-mêmes, comme si durant leur vie familiale et leur vie professionnelle elles s'étaient contentées de vivre leur vie sans que pour autant elles puissent développer un potentiel. Mais un potentiel qu'elles semblent deviner, qu'elles semblent appréhender parce que le moment semble s'y prêter. Et parmi ces personnes-là, quelque chose m'a interpellé, comme on dit. Ces personnes me disaient qu'elles avaient l'impression de ne pas vivre leur vie, de vivre une autre vie que celle à laquelle elles avaient aspiré. Et je me suis alors demandé si c'était possible. Ah, juste une précision. Parmi vous, qui n'a jamais assisté à ce genre d'événement? Parmi vous, qui n'a pas de culture spirituelle ou spiritualiste? Ai-je besoin, parfois, dans certains des termes que j'emploie, d'en donner la définition? Si c'est le cas, vous me le dites. D'accord? Et j'essaierai de vous donner les définitions qui correspondent à l'idée que je me fais de ce que je raconte. Parce que les définitions, vous savez, ont toujours plusieurs sens selon le contexte et les personnes à qui on s'adresse. Qui parmi vous n'a jamais vu de médium ou de médiumnité publique? Très bien. Avez-vous peur? Vous avez tort. J'ai l'habitude de dire que Martine se transformera en grenouille verte. Mais ce que je peux vous dire, c'est que parmi vous, une personne va se lever au plafond et va grimper jusqu'à nous. Ce sera très impressionnant. Il n'y a naturellement aucune crainte à avoir. Nous sommes de gentils spirituels. Parmi les personnes donc qui viennent me voir, et celles qui se posent cette question-là, est-ce que je vis la vie qui était prévue? Bien, je me suis donc posé la question si cette appréciation relevait de quelque chose. Est-ce qu'effectivement, on peut venir sur Terre et se tromper de vie, mais se tromper de vie, ça signifie que cette vie était prévue avant. Et de fait, lorsqu'on s'intéresse aux questions de la vie après la mort, de la survie de l'âme après la mort, on ne peut pas éviter le sujet de la réincarnation. Et le sujet de la réincarnation, tel qu'en parle la plupart des esprits, en tout cas, dans le cadre de la philosophie spirite, mais vous savez, la plupart des médiums qui interviennent ici sont spirites, hein, comme ils osent pas le dire, ils osent pas le penser. Parce que le spiritisme, malheureusement, est souvent mal considéré et est porteur de négativité. C'est simplement, je crois, à cause de l'ignorance que ce terme a acquis au cours du siècle dernier. Que le spiritisme n'est jamais au fond, que la recherche, l'étude de la vie après la vie, de la vie après la mort. Et au cours des décennies, à partir de 1920, on a confondu la philosophie, la science spirite, à la pratique spirite. Or, celle que le grand public connaît, c'est le Ouija. Mais le Ouija n'a strictement rien à voir avec le spiritisme. Le Ouija, c'est une technique qui consiste à obtenir un message avec une planchette, les lettres sont disposées autour, puis avec un doigt, un verre ou quelque autre support, le verre désigne des lettres et forme des phrases. Et les gens considèrent souvent que c'est très dangereux et qu'il ne faut pas pratiquer. Quoi qu'il en soit, c'est probablement vrai avec les personnes qui s'y adonnent pour s'amuser et dont les intentions ne sont pas très élevées. Le Ouija n'est au fond qu'une technique parmi tant d'autres, et n'importe quelle médiumnité, au fond, est dangereuse. Mais en même temps, n'importe quelle autre médiumnité est porteur de beaucoup d'espoir et peut être soutenue par de très bons esprits. La vérité, c'est que ce qui est important, ce sont les intentions. Et lorsque les personnes sont bien intentionnées, alors les expériences médiumniques sont produites par de bons esprits. Donc par rapport aux questions que se posent ces questions-là, et par rapport au sujet de la réincarnation, ce que nous savons de la réincarnation, au fond, nous a été dicté par les esprits, n'est-ce pas? Des esprits de différents niveaux de compréhension, dont la prise de conscience est plus ou moins différente, mais bon, peu importe. Beaucoup d'esprits nous indiquent que le principe de réincarnation désigne le fait que notre vie ne se résume pas à une seule existence, mais elle s'étend probablement sur des centaines, peut-être même des milliers de vies, durant lesquelles nous revenons expérimenter la vie. Mais contrairement aux religions, qui affirment souvent que la vie, c'est vivre des épreuves et en quelque sorte réparer des fautes, nous sommes tous des pécheurs, vous savez, les esprits disent un peu autre chose. Ils disent que le principe de réincarnation offre à notre âme, qui est un principe universel, qui est le principe éternel de notre individualité, offre à notre âme de vivre des expériences. expérience que nous notons comme étant négative ou positive. Mais de l'autre côté, il n'y a pas ces notions-là. Chaque expérience est bonne à vivre, parce qu'elle est capable de nous offrir une compréhension, une meilleure compréhension de ce que nous sommes, de ce que sont les autres, de ce qu'est le monde, de ce qu'est Dieu, de ce qu'est l'univers. Et à mesure que nous nous réincarnons sur ce monde, ou sur d'autres mondes, des mondes inférieurs aux nôtres ou bien supérieurs aux nôtres, car l'univers est très vaste, nous apprenons à résister, nous apprenons à réfléchir, à comprendre, et nous apprenons, au fond, aussi à vivre des sentiments, des émotions, dont le plus grand d'entre eux semble être l'amour. Je vous avoue que je ne comprends pas ce que signifie l'amour, pris comme cela, en tout cas, utilisé par la langue française. Cela me gêne beaucoup, d'utiliser ce terme pour dire que j'aime une personne, mais qu'au fond, j'aime aussi lui faire du mal. Utiliser le terme amour pour dire que j'aime du poulet, que j'aime manger du poulet, alors qu'en même temps, je souhaite protéger les animaux, il y a quelque chose de très contradictoire. Donc, par rapport au terme amour, vous m'entendrez quelquefois l'utiliser, mais vous rappellerez qu'en réalité, pour moi, si j'avais l'occasion de le faire, j'y mettrais après cela beaucoup d'adjectifs. L'amour, c'est la compassion, c'est le soutien, c'est la compréhension, c'est ce genre de choses, d'accord ? Et le principe de réincarnation, donc, est l'élément principal de l'évolution de notre âme. Et dans le cadre de cette progression, de cette élévation, après que nous soyons retournés de l'autre côté, les esprits nous disent que nous passons du temps à réfléchir sur ce que nous avons fait dans la vie, sur les actes que nous avons posés, sur nos pensées. Nous avons de l'autre côté le loisir de réfléchir à tout ça, de revivre aussi en grande partie ce que nous avons vécu et ce que nous avons fait vivre à autrui. Et nous pouvons alors en tirer, disons, des leçons, ou alors des conséquences, plus exactement. Et puisqu'il s'agit pour nous de progresser, nous pouvons choisir alors de progresser plus rapidement en nous réincarnant à nouveau. Et avant même de nous réincarner véritablement, c'est-à-dire de choisir une enveloppe physique et de participer à la vie sur Terre, nous préparons notre vie avec nos accompagnants spirituels, nos guides spirituels, et pas seulement eux, avec tous ces esprits qui forment notre famille, de l'autre côté, pour les personnes renseignées, de l'autre côté, nous vivons dans une famille spirituelle, entre membres, nous vivons dans une dimension et sur un plan vibratoire qui nous correspond. Et donc, nous pouvons entreprendre de réfléchir à notre existence matérielle et d'en dégager des étapes, d'en dessiner en quelque sorte la trajectoire. Et les étapes que nous allons choisir de vivre tout le long de notre existence, semble-t-il, s'appliqueront implacablement. Si nous avons prévu à 30 ans de vivre un événement, heureux ou malheureux, alors cet événement se produira. C'est ce que disent la plupart des esprits. Si nous devons vivre un drame, alors ce drame se produira parce que nous avons décidé nous-mêmes de le vivre afin de prendre conscience de quelque chose. Si nous avons décidé de rencontrer quelqu'un susceptible de nous permettre d'avancer dans nos compréhensions, alors nous rencontrerons cette personne-là. Pour autant, lorsque les personnes qui viennent me voir parlent de leur vie, elles me parlent plutôt d'échecs. Et elles me font comprendre que peut-être que dans la vie, ce que nous appelons le karma ou le principe de l'incarnation ne s'applique pas aussi facilement que les esprits l'expliquent eux-mêmes parfois. Et peut-être être plus compliqué que cela. Et effectivement, en recherchant des traces dans la littérature, j'ai trouvé des éléments qui me permettent de comprendre comment les choses peuvent se passer et qui expliqueraient pourquoi nous avons parfois, eh bien effectivement, le sentiment de nous être écartés de notre karma, de notre destin. C'est-à-dire que les étapes que nous devions traverser, au fond, nous les avons soigneusement évitées pour toutes sortes de raisons que j'essaierai d'expliquer. Et puisque nous ne vivons pas notre destin tel que nous l'avions décidé, il peut alors produire sur nous une déception. Cela peut produire sur nous un mal-être. Nous sommes programmés, au fond, pour vivre un certain nombre d'événements, parce que nous l'avons décidé ainsi, afin d'acquérir une compréhension. Mais lorsque nous choisissons de nous écarter de ce qui est bon pour nous, alors nous sommes un petit peu comme des projectiles perdus dans la nature, des projectiles qui peuvent se perdre définitivement, puisque malheureusement, des gens choisissent de se supprimer, choisissent d'interrompre leur existence, et des personnes choisissent visiblement de se détruire ou de s'autodétruire en utilisant des forces destructrices, de la violence, des addictions à l'alcool, à la drogue, et ce genre de choses, de s'adonner aux délits et aux crimes. Est-ce qu'on peut croire qu'il était dans le destin de ces personnes de se suicider, d'interrompre leur existence? Est-ce qu'on peut croire qu'il était prévu que ces personnes assassinent, volent, détruisent ou s'auto-détruisent? Personnellement, je ne le crois pas. Et ce n'est pas ce que les esprits, dans leur grande majorité, disent. Ce qu'ils disent, c'est qu'on peut revenir sur Terre avec l'idée de résister à des tentations. Et alors, on est placé dans des circonstances, dans des milieux sociaux, dans une famille qui nous tente, dont les affres, dont les difficultés pourront nous tenter et nous inciter soit à résister à la tentation de faire le mal, mais c'est vrai, quand je vous dis ça, c'est vraiment un raccourci, soit de résister et nous pousser à faire le bien. Ça, c'est typiquement du cadre de l'évolution de notre âme. Nous avons le choix. Nous avons constamment le choix de nos décisions, le choix de nos actes, il s'agit simplement du libre arbitre, et les esprits, nos amis, nos accompagnants spirituels, guides, le respectent absolument. Parfois, les esprits peuvent vous donner le sentiment, quand vous êtes en communication avec eux, de vous donner des ordres, de vous intimer. Aucun bon esprit ne le fait. Aucun. Si parmi vous, il y a des personnes qui reçoivent des messages psychographiques, auditifs, ou par quelque autre moyen, et où les esprits se montrent comme cela, directifs, alors ce n'est pas un bon esprit. Parce qu'ils ne respectent pas votre libre arbitre. Vous le constaterez, vous l'avez d'ailleurs peut-être constaté à maintes reprises ici, les grands esprits, notamment les guides spirituels, suggèrent. Ils nous donnent toujours le choix, parce qu'ils ne peuvent pas nous influencer, ils ne peuvent pas nous dire quoi faire, tout simplement parce que nous avons besoin, en tant qu'âme qui évolue, de prendre la responsabilité de chacun de nos actes. Nous sommes comme des enfants que nos guides tiennent par la main pendant quelque temps, le temps que nous comprenions et prenons conscience de ce que nous sommes et de ce qu'est le monde, mais à un certain moment, ils doivent nous lâcher la main. Parce qu'ils considèrent que nous devons faire nos preuves. Et c'est à ce moment-là où nous devenons enfin des êtres libres. Parce que nous agissons selon nos choix, et non pas selon ce que quelqu'un nous dit. Quelle récompense aurions-nous si on nous dictait absolument tout dans la vie, si on nous disait comment faire et comment réfléchir? Quel profit en aurions-nous? Aucun. Nous serions des enfants éternellement. Le fait que les esprits, les grands esprits, respectent notre libre arbitre, même si nous devons nous planter, même si nous devons nous casser la figure, c'est l'assurance que nous comprenons les choses, ou alors que nous les comprendrons. Le principe de l'incarnation sert donc à cela. Et de fait, ce que j'observe, moi, dans la littérature, notamment dans la littérature, c'est qu'il y a des exemples, des témoignages d'esprits qui nous disent autre chose. Alors pour faire vite, je vais vous les citer mentalement. Je ne peux pas aujourd'hui, pour gagner du temps, vous les lire. Mais je vous renverrai volontiers à Maggie Lebrun, qui a écrit « Médecin du ciel, médecin de la terre ». qui est un ouvrage fondamental et qui, Maggie, est un personnage fondamental aussi, en tout cas dans le paysage spiritualiste français. Maggie Lebrun était une magnétiseuse et son mari Daniel était médium. Et Maggie Lebrun, dans les pages 230 environ, donne deux exemples d'esprits qui se communiquent et qui montrent à quel point ils ont peur de la vie. Parce qu'au fond, la vie, c'est peur. La situation de notre âme, lorsqu'elle évolue de l'autre côté, est celle-ci. Nous vivons de l'autre côté sur des plans vibratoires, dans des mondes aussi, qui ne correspondent en rien à ce que nous vivons sur Terre. Notre âme n'est plus munie de ce corps physique, qui est une véritable prison. Notre âme vit dans une dimension, dans un espace et dans un temps qui ne correspond pas au nôtre. Si je veux me rendre dans, le fond de la pièce, je vais mettre à peu près 10 secondes. Un esprit, par la simple pensée, de se retrouver au fin fond de la galaxie. En termes d'espace-temps, nous ne vivons pas la même chose. Ici, sur Terre, nous sommes limités dans nos mouvements, mais nous sommes aussi limités dans notre compréhension et dans notre intelligence. Les esprits, très souvent, quelqu'un a des bons esprits, affirment que, de l'autre côté, ils ont la mémoire de tous les faits de leur existence, voire même les faits d'existence précédente. Ils ont une mémoire qui est, pour ainsi dire, illimitée, alors que la nôtre l'est. Nous avons du mal à nous souvenir simplement de notre enfance, pour les esprits aussi en général, de l'enfance de leur âme, je veux dire. Mais les esprits, de l'autre côté, ont la possibilité de se rappeler ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et mieux encore, comment les gens ont réagi à ce qui a été dit et à ce qui a été fait. Dans le livre « Les morts nous parlent » du Père Brune, il y a l'exemple notamment d'un esprit qui témoigne d'un fait qui l'a bouleversé lorsqu'il est retourné de l'autre côté. Lorsqu'il a revu en quelque sorte défiler sa vie devant lui, il s'est rappelé un jour que sur une autoroute aux États-Unis, il a percuté une voiture. Il était responsable. L'homme sort de la voiture et constate qu'il a englouti la voiture pilotée par une conductrice. Et vous savez à quel point les hommes sont durs avec les femmes en ce qui concerne la conduite. Eh bien, lui, il n'y loupe pas. Il insulte la bonne femme. Il a insulté la bonne femme en lui disant qu'elle était responsable. Il a imputé son erreur à cette femme, à cette conductrice. Et il en a tiré certaines fiertés. Et de fait, à l'état d'esprit, au moment où il revit cet épisode-là, il se revoit percuter la voiture, il voit cette conductrice sortir de la voiture, et ce qu'il ressent comme esprit, c'est une femme qui est bouleversée. C'est une femme qui est terriblement bouleversée par cet accident, et qui trouve, dans l'écho de sa violence, un trouble encore plus important. Il ressent que lorsqu'il a engueulé cette conductrice, il a tenté de la détruire. Il a tenté de lui faire du mal. Et tout notre travail de l'autre côté, d'une certaine façon, c'est de réussir à comprendre pourquoi nous avons agi de cette façon-là, à ce moment-là. N'y avait-il pas un moyen d'agir différemment? Et tout cela, naturellement, lorsqu'on arrive à en faire un bilan aussi objectif que possible, peut nous conduire à de la mansuétude, à de la douceur, et peut nous offrir le moyen d'enlever en nous tout cet orgueil et cet égoïsme, et cet égoïsme qui nous pourrit jusqu'à la moelle. Parce que nous sommes tous sur Terre, malheureusement, pétris d'orgueil et pétris d'égoïsme. Nous avons donc le souvenir de ce que nous avons fait, de ce que nous avons été sur plusieurs existences, et par rapport à ce que nous sommes, nous pauvres êtres incarnés, nous sommes des êtres bien plus riches et bien plus vivants que nous ne le serons jamais sur Terre. Sur Terre, nous sommes limités en tout, parce que notre corps est une véritable prison. Dans l'au-delà, nous avons par exemple la possibilité d'être en plusieurs endroits en même temps. Il s'agit de la faculté d'ubiquité. Sur Terre, nous sommes simplement limités à ce corps. Nous pouvons éventuellement nous projeter ailleurs, mais cela n'aurait jamais, que pour la plupart du cas, une projection de notre imagination, et non pas une projection réelle de notre esprit. Au fond, peu de personnes sont capables, en tout cas l'état conscient, de se projeter ailleurs. Il y a des cas célèbres comme Padre Pio, par exemple. Et puis, l'autre cas qui semble nous montrer que certains individus sont capables de sortir en quelque sorte leur âme de leur corps partiellement et de vivre ailleurs. Dans l'esprit, c'est, dans l'au-delà, c'est commun. Nous sommes en cela des êtres éminemment riches. Nous sommes de véritables trésors. Notre âme recèle des connaissances, des expériences que nous ne soupçonnons pas à l'état incarné. Parce que notre corps a éteint cette mémoire, en tout cas partiellement. Nous avons la nécessité, dans un monde comme le nôtre, de vivre dans l'ignorance de notre état. Et je pense que certains d'entre vous comprennent l'intérêt de vivre dans cet état-là, dans cette ignorance-là. Imaginez que dans un monde comme le nôtre, qui est un monde inique, violent, qui nous offre naturellement des chances de vivre des moments heureux, mais qui, me semble-t-il, d'une façon générale, est un monde violent. Imaginez un petit peu que nous ayons tous le souvenir de ce que nous avons été auparavant. Je crois que nous serions très mal à l'aise de constater qu'il y a auprès de nous, parmi nos amis, parmi les membres de notre famille, l'homme ou la femme qui nous a assassinés dans l'existence précédente. Je pense que nous aurions beaucoup de mal à accepter que la femme que nous avons épousée, ou l'homme que nous avons épousé, a été maltraitée par un ami ou par un parent qui vit à notre proximité. Le fait d'oublier ces événements-là, et d'autres, vous savez, quand on vit une situation, par exemple, une situation matérielle très difficile, il peut être, je crois, très douloureux de se rappeler qu'à une époque, nous avons été très riches et dans l'opulence. Pourquoi, dans cette vie, nous sommes si pauvres? Et pourquoi nous souffrons de ce manque matériel? Il me semble que l'ignorance de notre état nous offre de tout recommencer. Et d'être libre d'entretenir des relations précisément avec nos assassins, avec ces personnes qui nous ont meurtris. Le fait de ne pas savoir qui elles sont précisément nous offre au fond de relever en elles des qualités d'âme, des qualités intellectuelles avec lesquelles nous pouvons nous accommoder. L'ignorance dans laquelle nous sommes est donc, je crois, de la part de Dieu, si Dieu existe, une excellente opportunité pour nous de recommencer nos existences sans être gênés par des souvenirs handicapants. Pour autant, une partie de nos existences, une partie de ce trésor qui est en nous, que nous sommes nous-mêmes, reste en nous, à l'état inconscient. Et cela donne, on le repère, on arrive à le comprendre, notamment au travers des génies, de ces garçons et de ces filles qui très tôt ont un talent inné. Un talent pour la musique ou pour le dessin, pour toutes sortes d'autres arts. D'où vient ce talent? Il est probable que c'est une réminiscence d'une vie antérieure où le garçon ou la fille ont été un individu capable d'exercer un tel art. D'où vient par exemple aussi la notion de déjà-vu? Pourquoi, à certains moments, dans un village, dans une ville ou au contact d'une personne, nous avons le sentiment de la reconnaître ou d'être proche d'elle. Il est probable que ces réminiscences proviennent du fait que nous avons pu vivre avec elle. Vivre soit des choses intéressantes pour nous, de bonnes choses, soit alors des choses un peu négatives, un peu troublantes, choquantes, puisque nous rencontrons des personnes qui nous attirent, mais nous en rencontrons aussi des personnes qui est, quand on éprouve une sorte de, alors même qu'on ne s'est jamais parlé, elle nous procure un sentiment de rejet. Hein. Peut-être qu'il s'agit de réminiscences, au fond, de souvenirs qui sont inconscients. Hein. Et puis, de toute évidence, il y a des éléments de preuve plus évidents que d'autres, et notamment les preuves qui sont apportées par l'hypnose, notamment l'hypnose régressive. Qui ignore ce qu'est l'hypnose régressive? Oui? Très bien. Vous avez donc besoin d'une définition? Ah, enfin, j'ai travaillé. Je suis dans les temps? L'hypnose consiste à atteindre notre inconscient, ou du moins une des couches de notre inconscient. Nous sommes des êtres éminemment psychologiques, et il y a le conscient. Le conscient, c'est ce que nous vivons dans le présent. Et tout ce que nous vivons, tout ce que nous vivons est enregistré d'une certaine façon dans notre cerveau, mais pas simplement enregistré, ça continue à travailler. Et ce que nous avons pu expérimenter, nos échecs, nos réussites, continuent à travailler en nous. Ça, c'est l'inconscient auquel les psychiatres et les psychologues aiment bien céder. Mais les hypnotiseurs régressifs, sont capables, pour certains d'entre eux, d'accéder à cette mémoire cachée qui est en nous, et d'accéder aux choses que nous avons vécues, qui continuent à travailler en nous, et qui peuvent éventuellement poser problème. Ces hypnotiseurs peuvent accéder à notre mémoire d'hier ou de ce matin, mais aussi, avec un peu de travail, à des mémoires plus anciennes, aux mémoires de notre enfance, voire même, pour certains d'entre eux, à une mémoire bien plus ancienne, celle qui était la nôtre avant de nous incarner, clairement, à des mémoires antérieures. Autant vous le dire, l'hypnose est dangereuse. Mais elle n'est pas plus dangereuse que la médiumnité. Une fois encore, ce n'est qu'une question d'attention. Et le fait, c'est que l'histoire nous montre qu'il y a des hypnotiseurs qui ont abusé de leur technique pour manipuler des gens. Rappelez-vous, il y a 4 ou 5 ans environ, aux États-Unis, un homme a été condamné pour avoir hypnotisé une jeune femme, et dans le cadre de l'aide qu'il lui a portée, il lui a fait croire qu'elle avait été violée par son père, je crois, ou par son oncle lorsqu'elle était enfant. C'était inventé, c'était un mensonge. Et naturellement, vous imaginez bien que cette révélation a bouleversé cette jeune femme. Elle a porté plainte et l'homme a été condamné. Parce qu'il y a des hypnotiseurs qui ne prennent pas le soin d'éviter de suggestionner les personnes hypnotisées. L'hypnose est extrêmement difficile à utiliser parce qu'il faut absolument éviter de mettre en tête des informations que les personnes hypnotisées vont pouvoir récupérer et transformer grâce à leur imagination. Parmi vous, les personnes connaissent peut-être le cas de Murphy. Murphy était une femme qui plaçait sous hypnose. Pour autant que je me souvienne, on est dans les années 40, 30, entre les années 30 et les 50. C'est une personne qui, placée sous hypnose, soudain s'est mise à se rappeler qu'elle avait vécu 2 siècles auparavant, je crois, dans un village d'Écosse, et elle se rappelait de chansons qu'elle récitait. Elle se rappelait d'une quantité d'informations qui pouvaient faire croire qu'effectivement, cette mémoire-là correspondait à une vie antérieure. Il se trouve simplement que quelques années plus tard, on a découvert que c'était que tout ce qu'elle racontait était le fruit de son imagination, puisque Murphy portait un nom, se donnait un nom qui correspondait à sa voisine qui habitait en face lorsqu'elle était enfant. Et une partie des chansons, une partie des informations qu'elle récitait semblait correspondre à des choses qu'elle avait vécues pendant son enfance. Donc, la régression hypnotique peut nous faire croire des choses qui n'existent pas. Murphy semble être... Je vous dis ça au conditionnel parce qu'il y a des personnes qui croient encore que le cas de Murphy est un véritable cas de régression hypnotique, une vie antérieure. Et puis il y a ses détracteurs naturellement. Dans le cadre de la régression hypnotique, il faut donc faire très attention à la qualité du praticien. Et pour ce qui me concerne, j'apprécie beaucoup un psychiatre américain qui s'appelle Brian Elwes, qui est né en 1944. Et ce psychiatre, dans le cadre de sa pratique psychiatrique, a découvert que s'il plongeait certains de ses patients en hypnose, cela pouvait raconter des événements qui ne s'étaient pas produits dans leur existence. Et de toute évidence, ce qu'ils racontaient pouvait avoir sur eux pouvait avoir la qualité de les aider à lever un traumatisme et un choc. Et de mémoire, il y a, je vous cite le cas de Cathy. Cathy est une jeune femme qui vient le voir parce qu'elle a besoin d'arrêter de fumer. C'est une jeune femme qui a aussi un embonpoint. Et après avoir été plongé en état d'hypnose, le médecin plonge Cathy dans un état encore plus profond. Et à ce moment-là, cette jeune femme parle d'un événement qu'elle n'a jamais vécu. Elle se voit alitée, elle est extrêmement maigre, et on la torture. On exécute sur elle des expériences scientifiques, et ce qu'elle décrit autour d'elle laisse croire qu'elle a vécu un internement dans un camp nazi, où elle est morte. Et elle le dit d'ailleurs, incertainement, je quitte mon corps et je me retrouve dans la lumière. Et aussitôt, elle est plongée dans une autre existence, et cette fois-ci, elle dit qu'elle est alitée encore, qu'elle va bientôt mourir, mais elle accuse des hommes. En fait, elle accuse sa condition de prostituée. Elle dit qu'elle est dans la Nouvelle-Orléans et elle est malade parce que prostituée, elle a attrapé des maladies vénériennes. Et de fait, le docteur constate bien que le lien entre ces deux existences, c'est sa maigreur. C'est son état squelettique. Et il lui demande alors, il demande alors à son âme, qui est encore dans un état hypnotique, mais est-ce qu'il y a un lien entre le fait que vous ayez été si maigre et que vous ayez souffert durant ces deux vies et votre embonpoint ? Cathy lui avait expliqué qu'elle avait du mal à nouer des relations amoureuses affectives. Et de fait, le médecin a pensé qu'il y avait un lien entre sa maigreur dans ses deux existences et son embonpoint. Et de fait, l'âme explique, parce que j'ai souffert à cause des hommes, des tortures et des souffrances qu'ils ont infligées à mon corps, j'ai décidé dans cette vie de m'enrober afin que les hommes ne s'intéressent pas à moi. Et de fait, on comprend au travers de ce témoignage qu'une femme comme Cathy est revenue sur Terre avec l'intention de se protéger, de ne plus vivre des tortures, de ne plus vivre une souffrance qu'on lui avait infligée dans les vies précédentes. Il y a donc de notre part, lorsque nous décidons de nous incarner, voyez-vous, la volonté aussi de plus vivre certains événements et de trouver des moyens pour ne plus vivre ces événements-là. Cathy a choisi ce trucage, cette tactique de transformer son corps pour ne plus intéresser les hommes. C'est un peu artificiel comme technique. Un autre auteur, Maggie Lebrun, dans son ouvrage « Médecin du ciel, médecin de la terre », laisse deux esprits témoigner, et des esprits qui indiquent que même si dans l'au-delà, ils étaient fous de joie de revenir sur Terre, il y a un esprit, Jonathan par exemple, je crois, qui dit « Moi, je veux revenir sur la Terre parce que je suis un être très spirituel et je veux changer ce monde. Je veux lui apporter quelque chose. » Et de fait, l'incarnation se passe mal et au moment de l'accouchement, il y a un grave problème. La femme, la mère qu'il a choisie, est hospitalisée et dans le groupe de Maggie Lebrun, on estime que le bébé risque de mourir. Alors Maggie Lebrun a cette particularité d'avoir créé des groupes de prière et les groupes de prière se réunissaient et priaient pour un sujet en particulier. Ces groupes de prière existent toujours et si cela vous intéresse, je crois que les prières s'effectuent à 20h30. On n'a pas besoin d'être ensemble. Justement, la particularité de ces groupes-là, c'est qu'on peut prier chacun de chez soi et faire en sorte que nos pensées, nos prières rejoignent une sorte d'égrégore qui ensuite aidera les personnes concernées. Maggie Lebrun, à ce moment-là, avec son petit groupe, prie pour Jonathan. Et Daniel, son mari, est alors sollicité médiumniquement, et c'est l'âme de Jonathan qui s'exprime. Et l'âme de Jonathan dit, voilà, moi, je suis venu ici sur Terre pour changer le monde, je suis un être éminemment spirituel, mais je dois vous prévenir. Je vous préviens que j'ai besoin d'un corps valide. J'ai besoin d'un corps en état. Et si mon état, et si mon corps, après ma naissance, est handicapé, alors je préfère mourir. Parce que je ne pourrai pas parvenir à réaliser ma mission. Vous comprenez que ça fait écho peut-être à certains accouchements qui se passent mal et où les bébés meurent. Peut-être que certains d'entre eux, au fond, décident au dernier moment de ne plus revenir sur Terre pour accomplir leur destin. C'est, je crois, ce que veut dire cet esprit-là, Jonathan. Il se trouve que la naissance a eu lieu et l'enfant, le corps de l'enfant est né sans handicap. Et ce qui est troublant, c'est que Maggie Lebrun dit, voilà, Jonathan est un petit garçon normal, un adolescent normal. Mais sa mère m'a dit qu'à l'âge de 6 ans, elle a surpris dans sa chambre en train de pleurer. Et lorsqu'elle lui a demandé ce qui se passait, l'enfant lui a dit, écoute maman, ce monde est trop cruel, il est trop dur. Si j'avais su, je ne serais pas venu. L'âme de Jonathan s'exprimait à ce moment-là et évoquait sa difficulté à vivre parce que je crois qu'elle soupçonnait dans quel monde difficile elle avait mis le pied. C'était une âme, je vous le rappelle, qui était plein d'entrain, qui était venue avec en quelque sorte une sorte de prétention. Je suis un être très spirituel et je viens changer le monde. Et de fait, à l'adolescence, Maggie Lebrun évoque le fait que Jonathan est un adolescent comme tous les autres. Et je ne peux pas m'empêcher que nous sommes tous dans cette situation-là. Parce que nous sommes des êtres éminemment spirituels, parce que nous revenons de l'au-delà. Nous savons pertinemment ce qui se passe de l'autre côté. Parce que nous sommes des êtres éminemment riches, nous sommes riches de tous nos souvenirs, de toutes nos expériences de vie, de toutes les rencontres que nous avons faites, de tous les enseignements que nous avons reçus, parce que nous sommes riches aussi, parce que nous avons une famille nombreuse. Notre famille ne se limite pas aux membres qui forment notre famille terrestre, mais notre famille est riche de tous ceux qui ont formé nos familles terrestres. Et la famille, en plus, d'un point de vue spirituel, ne s'intéresse pas simplement aux membres, aux liens de sang. La famille, le lien de famille, s'étend à tous ceux qui sont proches de nous parce que nous les aimons, parce qu'ils nous aiment, vous comprenez? Et parce que nous revenons à l'état incarné, dans ces corps comparables à des prisons, nous oublions tout, ou presque tout. Mais notre âme est ici à l'intérieur. Et notre âme se souvient parfois, au fond, de nos promesses de vie. Ces promesses de vie qui ont consisté à dessiner notre karma, à décider notre destin, et à dire qu'à certains moments dans notre existence, nous allions vivre telle expérience ou rencontrer telle personne. Mais parce que ce monde est si difficile, parce que nous perdons en partie notre mémoire, et parce qu'au fond, nous sommes peu courageux. Vous savez, dans l'au-delà, nous sommes bien plus courageux que nous le sommes ici sur Terre. La preuve en est Jonathan, qui vient avec un tel espoir qu'à 6 ans, il dit « si j'avais su, je ne serais pas venu ». Nous venons ici avec beaucoup de courage, mais au fur et à mesure, ce courage tend à disparaître. Et je vais vous citer, à cet égard, ce sera le seul texte que je vais vous citer aujourd'hui, le texte d'un esprit qui se confie au médium, en l'occurrence Martin Mutella, en 2011. Et c'est un esprit qui, se préparant à revenir sur Terre, se pose des questions sur sa réincarnation. Et d'abord, il s'en pose sur lui-même et sur ses promesses de vie. Ce texte, vous le trouvez dans cette gazette que j'ai écrite pour l'association Chemin de Vie de Villefranche. Elle est disponible sur mon site internet dans la page des documents. Ce texte dit « Il m'a fallu du temps pour envisager le fait d'être décédé et de malgré tout vivre encore. Et je dois admettre aujourd'hui que je me sens bien. La bataille fut rude, mais j'ai compris tellement de choses importantes. Je crois que maintenant, je vais pouvoir avancer enfin sur la route de mon évolution. Enfin, comme je le disais, ce fut un terrible combat qu'il a fallu que je mène tout d'abord contre les ombres, mais aussi et surtout contre moi. Il faut du temps pour se départir des choses terrestres. Alors, moins nous en avions, moins nous en avons et le mieux c'est, car cela sera plus simple pour l'avenir. Il dit, j'espère que ma prochaine existence sera faite de moments plus calmes et que mon éducation se fera dans de meilleures conditions. Mais nous ne pouvons présumer de rien. Nous devons tout d'abord être confiants envers ceux qui veulent bien nous aider à avancer, et c'est dans ce sens, dans cette confiance, que nous pourrons progresser déjà. Lorsque je reviendrai dans une nouvelle enveloppe, lorsque je me réincarnerai, je sais que j'aurai prévu tant de choses. Donc il parle de ce que je vous expliquais, du destin, du fait qu'il choisit les étapes. Il se pose cette question, cela se terminera-t-il fort bien? Cela, je ne peux le dire. Car ce demi-sommeil dans lequel nous entrons à ce moment-là ne nous permet plus la visualisation de notre destin tracé, ce que je peux comprendre aujourd'hui. Malgré cela, je dois dire que je pense être assez fort pour faire face à mes ambitions et réussir le mieux possible ma présence ici-bas sur Terre. Mais voilà, en aurais-je vraiment la constance? Tout cela reste un mystère. À quoi je pense en ce moment? Eh bien, je pense à mon futur chemin. Je vaque de ci, de là, pour obtenir de nos frères, des esprits, les meilleurs conseils pour ce chemin. C'est vrai, c'est ma considération première, mais qui ne ferait de même? Rien que la Terre approche, parce que je dois devoir apporter, eh bien, l'angoisse me noue. Oui, j'avoue avoir des craintes, peut-être sont-elles fondées, mais je crois en mon esprit de réflexion, en mes frères qui m'indiqueront la ténacité. Voilà que maintenant je pense partir vers une autre route, rejoindre tous mes amis chers à mon cœur, en espérant pouvoir les retrouver avec moi lors de mon retour sur Terre. C'est donc un esprit qui a fait le bilan de son existence, visiblement, qui s'adresse à se réincarner, mais qui, vous le constatez, éprouve des angoisses. Parce qu'il se pose cette question, vais-je réussir à accomplir mon destin tel que je l'ai prévu? Je crois que nous vivons tous cette situation, d'autant plus que lorsque nous revenons dans des milieux un peu difficiles, nous pouvons céder à la tentation, nous pouvons nous décourager, nous pouvons aussi tomber dans une forme de facilité, et puis reconnaissez-le, nous pouvons aussi nous illusionner. Et la plupart du temps, pour ce que j'ai observé, nous nous illusionnons sur nos conjoints. Nous croyons rencontrer la sœur, nous croyons vivre le bonheur absolu avec telle ou telle personne, et en réalité, nous épousons notre bourreau. Mais c'est assez fou de constater qu'il existe des personnes qui vivent avec leur bourreau et voire même qui épousent leur criminel. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons choisi de vivre? Ou alors est-ce que c'est une erreur? Personnellement, je crois que c'est une erreur, que ce n'est pas un choix délibéré. Vous comprenez? Nous sommes donc ici très clairement dans des illusions, dans des erreurs qui nous ont amenés à nous séparer de notre destin, à nous écarter de lui. Mais pour autant, donc, et pour en conclure, existe-t-il un moyen de retourner sur les traces de notre destin, de revenir sur nos pas et enfin accomplir les étapes de notre existence telles qu'elles étaient prévues? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que c'est ce que j'ai expérimenté avec certaines personnes chez qui j'ai expérimenté cette procédure. Simplement, cela demande du temps. Visiblement, ça ne se fait pas comme cela en quelques jours, en quelques semaines. Parce que la procédure consiste à dire aux personnes qu'elles ont en elles le pouvoir de changer et le pouvoir de s'acheminer elles-mêmes vers le chemin. Et il ne s'agit pas de leur dire quoi faire, parce que alors ce serait les tromper, ce serait les manipuler, ce serait les influencer. Rappelez-vous, les bons esprits n'influencent pas les personnes. Elles les laissent vivre leur existence et trouver en elles la force de comprendre et de rebondir. La procédure consiste donc à faire en sorte que les personnes se rappellent leurs souvenirs inconscients, se rappellent les promesses de vie qu'elles ont établies avant de s'incarner, et de trouver en elles, ou alors de trouver dans leurs frères de l'au-delà, la force, le courage d'appliquer ce qui était prévu. En aucun cas, je le répète, il ne faut essayer de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est, je crois, la plus grande limite ou limitation de la réconciliation d'âme. Influencer les gens, influencer vos proches pour qu'ils fassent ce que vous désireriez qu'ils fassent, ce serait les tromper, et ce serait, à mon avis, tomber dans une manipulation qui pourrait représenter pour elles un très grand danger. il faut utiliser la réconciliation d'âme, non pas pour influencer les gens, mais pour leur offrir de trouver en eux ce qu'ils sont réellement, je vous le répète, un trésor fabuleux, une quantité de force et une quantité d'opportunités qui suffit simplement de ramener à la mémoire. Hein. La plupart du temps, la réconciliation donne des fruits au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Je vous donne cet exemple-là. Lorsque dans un couple, les choses vont mal, et lorsque visiblement on s'est trompé sur la qualité du conjoint, il y a la nécessité de se mettre à l'abri financièrement. Et quelquefois, des femmes n'ont pas d'emploi, des épouses n'ont pas d'emploi. Et avant donc de parvenir à se libérer de cette emprise-là, il faut qu'elles se mettent à l'abri financièrement, matériellement. Cela peut nécessiter des mois. Mais pour autant, la réconciliation d'âme ne dit pas ce que les gens doivent faire. Si ces dames en difficulté considèrent que le mieux pour elles, d'après ce qu'elles entendent de leur destin, c'est de se séparer de ce conjoint, alors elles tenteront de mettre cela en œuvre. Mais si en même temps leur promesse de vie, leur destin, consiste précisément à vivre avec ce conjoint, alors elles mettront en œuvre d'autres forces, vous comprenez ? Si le destin qu'on décide de vivre ne consiste pas simplement à éviter la souffrance. Quelquefois, ça consiste aussi à vivre dans la souffrance. Parce que nous considérons que la souffrance peut nous procurer une compréhension, peut nous offrir aussi de comprendre l'autre. Que ça est un peu compliqué, mais enfin, je ne suis pas naturellement capable de déceler chez les gens ce dont ils ont besoin. Nous avons chacun des besoins très différents. La réconciliation d'âme peut procurer aux personnes le sentiment de vouloir se rendre libre de toutes sortes de contingences, et peut-être que dans leur vie, cette liberté, elles ne l'ont pas assez goûtée. Cela peut aussi offrir aux gens le moyen de se libérer des personnes qui peuvent apparaître en quelque sorte comme des vampires ou des boulets, ou alors au contraire de se rapprocher d'autres personnes. Combien de personnes n'ont pas de conflit avec leur mère ou leur père, par exemple. Mais pour autant, dans ce conflit-là, est-ce que nous devons forcément les laisser tomber, les écarter de notre vie ? Peut-être au fond que ces conflits-là ont une raison qui nous appartient de comprendre tout à fait. Et au lieu de les écarter de notre vie, peut-être pouvons-nous trouver en nous des éléments, des forces, une compréhension nouvelle qui peut nous offrir de nous rapprocher de hein. Chacun d'entre nous avons des raisons très particulières, et la réconciliation d'âme ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire. En fin de compte, les gens trouvent en eux ce qu'ils doivent faire tout seuls comme des grands. Hein. Je vais maintenant appliquer la réconciliation d'âme. Est-ce que par rapport à ce qui a été dit, il y a des questions ? Me suis-je suffisamment bien expliqué ? Parce que j'ai dit ça, vous savez. Qui a peur et qui ne veut pas participer à la réconciliation ? Vous avez le choix de quitter la salle. Vous êtes tous volontaires ? Vous êtes tous fous, alors. En fin de compte, vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas si je dis la vérité ou pas. Ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que je ne suis pas détenteur de la vérité. Je suis détenteur d'une vérité, ce n'est que la mienne. Et c'est à vous de trouver la vérité, la vôtre. C'est à vous, à partir de mes explications, de trouver des éléments de réponse à vos questions. Et de vous nourrir de nourrir vos questionnements. Vous comprenez ? La réconciliation va durer à peu près 10 minutes et vous allez vous détendre. Pendant que vous allez vous détendre, Guy et Chantal vont fouiller vos poches, vos sacs. Laissez-vous faire. Martine et moi avons besoin d'argent. Je vais d'abord vous placer dans un état modifié de conscience très doux. Je vais appliquer des méthodes qui sont très connues. Vous savez, je vais vous installer dans une sphère. et dans la sphère, vous sortirez à l'abri de tout. Donc n'ayez pas peur parce que la méthode vous met à l'abri de toute influence extérieure. J'appellerai ensuite quelqu'un à vos côtés. Vous l'appellerez plus exactement. Et puis ensuite, je m'adresserai à votre âme. Parce que la méthode, la réconciliation d'âme, le truc que je crois avoir trouvé pour permettre, pour vous permettre de vous rappeler de vos promesses de vie, ce n'est pas de vous adresser, de m'adresser à vous comme individu, Michel, Pierre, Jean-Jacques, mais c'est de parler à votre âme. Rappelez-vous, nous nous rappelons de tout, nous enregistrons tout, notre âme est consciente de tout, et elle est parfaitement consciente de ce que je vais lui dire. En adressant à votre âme va comprendre de quoi il s'agit et va enregistrer l'information. Et inconsciemment, elle va alors tenter de se souvenir de ses souvenirs inconscients, de ses promesses de vie. Cela pourra durer le temps nécessaire, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, en fonction de vos difficultés et en fonction de la confiance que vous m'accordez. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger. Fermez les yeux si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, puisque rappelez-vous, je m'adresse à votre âme. Elle m'entend. Je crois que vous pourriez parfaitement penser à vos courses. Cela ne gênerait pas le processus. Si vous regardez votre nombril, un peu au-dessus de votre nombril, et vous pouvez le regarder avec les yeux de votre âme, vous n'avez pas forcément besoin de regarder avec vos yeux physiques. Si vous regardez au-dessus de votre nombril, au niveau du plexus solaire, là où les côtes se rejoignent, vous pouvez observer une chose curieuse, il y a une lueur. Il y a une lueur douce, qui émet comme des vibrations, comme un battement de cœur. Et cette lueur vous procure un sentiment de sérénité. Vous vous sentez à l'aise. Elle vibre, elle est vivante. Cette lueur, c'est vous qui la projetez. Elle est constituée de vos qualités. Elle est une extension de votre âme. Et cette lueur forme maintenant une sorte de boule au niveau de votre plexus solaire. Et elle va grandir, centimètre après centimètre. C'est une boule translucide, très peu épaisse, d'une jolie lueur, extrêmement solide. Et elle grandit de plus en plus. Elle est maintenant plus grande que votre ventre. Et elle continue à grandir. Maintenant, la bulle ou la boule vous contient tout entier. Lorsque vous étendez vos bras et vos jambes, vous êtes tout entier contenu à l'intérieur de cette bulle. Et vous êtes bien. Vous êtes au chaud. Vous ne respirez rien. C'est une bulle translucide qui bat d'une jolie couleur. Vous savez qu'elle est résistante à tout, rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut pénétrer dedans. Vous êtes à l'abri de tout. Et cette bulle n'a plus besoin de grandir. Vous êtes tout entier contenu dedans. Et elle n'a plus besoin de grandir. À l'intérieur de la bulle, vous êtes intimement lié à votre être profond. Vous êtes aussi bien que possible. Et j'aimerais maintenant vous dire ceci à votre âme qui est essentiel. Et j'aimerais que votre âme puisse considérer si elle peut me faire confiance ou pas. Vous ne risquez rien si vous considérez que le diable n'existe pas. Le diable n'existe pas, et quoi que vous fassiez, et quoi que vous disiez, vous serez votre propre juge. Ni le diable, ni Dieu ne vous jugeront et ne vous puniront, parce que vous êtes parfaitement libre d'agir comme vous le souhaitez, de réfléchir comme vous le pouvez. Vous seul êtes capable de vous juger. Personne ne peut le faire à votre place. Par conséquent, gagnez en sérénité par rapport à des expériences qui peuvent vous troubler, vous inciter à vous sentir coupable. Vous seul aurez l'opportunité de vous juger sur pièce lorsque vous retournerez de l'autre côté. Dieu vous recevra comme il reçoit tout le monde et tâchera de vous rendre aussi heureux que vous pourrez. D'autre part, je dois vous dire que vous êtes un être, vous êtes des êtres éternels. Votre vie ne se limite pas simplement à cette existence, mais elle participe à un processus très long durant lequel votre âme a vécu d'innombrables expériences au cours d'existences incarnées, au cours d'un cycle d'incarnation, de désincarnation. Et vous êtes donc un être qui a vécu tellement d'expériences, qui a acquis tellement de connaissances, qui a rencontré tellement de personnes, que vous êtes bien plus riche que vous ne le pensez vous-même. En cela, vous n'avez pas forcément besoin d'être complexé, parce que vous vivez sur Terre une vie limitée peut-être, mais une vie qui correspond à ce que vous avez besoin de comprendre, à ce que vous avez besoin de vivre. Lorsque vous retournerez de l'autre côté, rejoindre les vôtres et rejoindre la divinité, vous retrouverez alors toutes les qualités qui constituent votre être et vous redeviendrez les trésors que vous êtes. J'aimerais maintenant que vous puissiez ouvrir un tout petit peu la bulle qui est autour de vous afin de permettre à quelqu'un de rentrer dedans. Je vous demande d'appeler une personne. Et cette personne est celle que vous estimez le plus. C'est la personne que vous aimez le plus. Ce peut être une personne désincarnée, qui vit dans l'au-delà. Ce peut être une figure religieuse que vous appréciez particulièrement. Ou alors, ce peut être une personne incarnée, une personne qui vit sur Terre et dont vous avez parfaitement confiance. Je vous demande donc d'appeler cette personne et de lui permettre de pénétrer la bulle et de se placer sur votre droite ou sur votre gauche. Et dès lors que cette personne a pénétré la bulle et s'est placée à côté de vous, je vous demande de refermer la bulle, ainsi personne d'autre ne pourra rentrer et vous perturber. Cette personne, maintenant, vous lui permettez de placer sa main sur votre épaule. Et sa main sur vos épaules, c'est un lien. C'est un lien de confiance, c'est un lien d'amour qui vous unit et qui vous unira éternellement. Ainsi, chaque fois que vous aurez besoin de reproduire la réconciliation d'âme, de détendre la bulle et d'appeler à vous une personne de confiance, c'est cette personne que vous pourrez appeler. Et c'est une personne qui vous aime et qui vous respecte et qui vous aidera dans l'expérimentation de la réconciliation, qui vous aidera à retrouver les promesses de vie, c'est-à-dire les promesses que vous avez faites avant de vous incarner et qui dessinent les différentes étapes de votre incarnation. Il s'agit tout simplement de votre destin. Ce destin que peut-être vous fuyez, duquel vous vous écartez pour toutes sortes de raisons. Et maintenant que vous êtes unis à ce personnage, je m'adresse encore une fois à votre âme. Je lui demande de faire l'effort avec son compagnon à côté d'elle, de se rappeler de ses promesses de vie et de se rappeler de ses choix de vie, de se rappeler pourquoi elle a choisi de s'incarner, pour quelles raisons, et de se rappeler aussi des différentes étapes par lesquelles elle doit passer. Rappelez-vous de ce qui constitue votre destin. Et en fonction de ce que vous vous rappelez, j'aimerais que vous puissiez trouver en vous alors toute l'énergie, la force, la confiance qui était la vôtre au moment de vous incarner, au moment où vous avez fait ces choix. Force, énergie, confiance qui vous manque peut-être maintenant. Mais si vous parvenez à vous rappeler de qui vous étiez et de ce qui vous constituait, alors peut-être retrouverez-vous le courage qui vous manque. Peut-être déciderez-vous d'aller devant vos épreuves de vie, d'accomplir vos missions de vie. Et le personnage qui s'est placé à côté de vous vous aidera dans tout le processus pour vous rappeler de ses promesses et pour vous donner, vous offrir le courage, l'énergie dont vous avez besoin. Quoi que vous ayez à vivre et quoi que vous ayez vécu, ne vous culpabilisez pas, vous avez fait ce que vous pouviez. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez croire que vous pouvez peut-être mieux faire, que vous pouvez peut-être compléter ce que vous avez déjà fait. Le personnage qui est à votre côté vous dit maintenant au revoir. Regardez-le. Rappelez-vous de son visage et de ses expressions. C'est un personnage que vous allez laisser partir, mais vous saurez que chaque fois que vous aurez besoin de lui, il reviendra, parce que maintenant, un lien vous unit. Et vous refermez derrière lui la bulle protectrice. Grâce à vos souvenirs, grâce à vos émotions retrouvées, je vous souhaite maintenant, à chacun et à chacune d'entre vous, de revenir sur les pas de votre destin et de l'accomplir tel que vous l'aviez décidé. Quel que soit votre chemin de vie, vos étapes, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, quelles que soient les décisions que vous ayez à prendre, ce seront vos décisions à vous. Vous les choisirez librement parce que vous les avez décidées ainsi. Je vous souhaite tout le courage nécessaire. Je vous souhaite d'être heureux, aussi heureux que possible, même dans les difficultés. Vous revenez maintenant, peu à peu, à la réalité de la vie. Et la bulle qui est autour de vous se rétracte, lentement. Elle devient de plus en plus petite. Votre corps la dépasse. Et petit à petit, elle rejoint votre plexus solaire. Et vous constatez cette chose curieuse, c'est qu'elle continue à luire en vous. Parce qu'elle est en vous, elle est vous. Et chaque fois que vous aurez besoin de vous sentir dans l'état que vous êtes, où vous êtes, chaque fois que vous aurez le sentiment que vous vous écartez de votre destin, je vous propose vous-même de reproduire cette expérimentation, ou alors de la produire autour de vous, à vos proches et amis, avec cet impératif de respecter leur libre arbitre quoi qu'il arrive. Vous êtes maintenant redevenu celle et celui que vous êtes. Vous vous rappelez, je le souhaite, je l'espère, que vous êtes de véritables trésors sur terre. Et que maintenant débute une nouvelle étape de votre vie, celle où vous êtes réconcilié avec vous, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Le sujet est terminé. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Mais puisque nous manquons de temps, vous n'avez pas de questions définitives. Merci beaucoup. C'est la pause. Nous en avons pour 20-30 minutes. Et rappelez-vous, vous avez deux travaux effectués à part manger et aller aux toilettes. vous pouvez remplir ces fiches pour obtenir des messages de la part de Martine. Et vous avez pour la fin de séance des prénoms et des noms à annoter sur ces fiches-là. Merci.
Une petite précision complémentaire.